Salut Yann.
Salut Yann.
Bonjour, bonjour.
Vas-y, de toute façon, on verra comment tu te débrouilles.
En fait, je vais commencer en racontant une petite histoire. C'est que quand j'étais plus jeune, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Je suis fils unique, donc ça n'a pas changé. Enfin, à moins que je ne le sache pas, hein, qu'il y en ait d'autres, de frères et sœurs. J'étais fils unique, enfin je suis toujours, et c'était un petit peu difficile l'adolescence parce qu'on sait pas quoi faire, on sait pas avec qui s'engueuler, tout ça, donc on s'engueule pas, c'est un peu. Et donc j'étais un petit peu, on va dire, dépressif, mais enfin comme tous les ados, hein, maintenant que je les connais bien, je peux vous dire que c'est comme tout le monde. Et ma mère s'est rendue compte de la chose. Et donc elle s'est dit, je pense, qu'il fallait trouver autre chose, il fallait trouver une activité, tout ça. Et donc elle a décidé, parce que j'étais petit, hein, j'avais 14-15 ans, elle a décidé pour moi, comme souvent, qu'il fallait qu'elle m'emmène au cinéma voir des films bien. Donc elle m'a emmené pendant, on va dire, presque un an, deux, trois fois par semaine voir des films. Et notamment, elle m'emmenait au Quartier Latin, donc c'est là que j'ai commencé à découvrir tous les petits cinémas du Quartier Latin, ou alors aussi les cinémas à République, là, je sais pas si vous voyez, je me rappelle plus du nom de... Ah, il n'y a pas de communication du tout, donc vous répondez pas du tout à ce que je dis, d'accord, bon. Donc un cinéma, là, qui a rue du Temple, ou rue du Faubourg du Temple, je sais plus trop.
Latino?
Ah non, c'est pas latino, non, 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 bon, c'est un vieux
Un
Cinoche, en
cinéma
face le...
associatif près du Faubourg du Temple, mais bon.
Associatif, je sais pas, en face du Palais des Glaces, là, je crois que ça s'appelle le République, et en fait c'était un cinéma assez rigolo, parce que c'est un vieux truc, et les murs étaient recouverts de boîtes d'œufs, pour isoler, quoi, enfin, du bruit sans doute extérieur, donc je trouvais ça assez rigolo, et puis... Quand vous m'avez demandé de penser à ça, j'ai repensé aussi à un autre cinéma qui était à Stalingrad, qui a été détruit depuis, où j'avais vu un film, j'avais vu Cabaret, et où en fait il faisait tellement froid que les gens de la salle avaient installé un chauffage électrique branché au mur. Voilà, donc ça c'est un souvenir que je voulais raconter. Et donc voilà, donc j'ai commencé à aller au cinéma, donc c'était très intéressant évidemment. Et on a vu pas mal de films, on a vu pas mal de films, notamment de... Alors Truffaut, Buñuel, Demy, Sautet, tout ça. Et j'ai commencé à bien aimer tout ce qui était... Je sais pas si on peut appeler ça film d'auteur, hein, parce que, bon, je sais pas. Mais en tout cas, film français, très à la mode maintenant, quoi. Et quelques classiques américains aussi. Et donc j'ai vu pas mal de films de Truffaut, et il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment marqué, notamment ceux avec Jeanne Moreau, comme La mariée était en noir, et puis d'autres aussi, sans Jeanne Moreau, L'enfant sauvage, Le dernier métro, tout ça, et Catherine Deneuve, que j'aime beaucoup, comme vous savez. Et donc une des chansons qui m'est revenue sur cette période de ma vie, c'était Napoléon. Donc c'est un jeu de mots, hein, comme tout le monde a pu remarquer. Napoléon, pour ceux qui ne remarquent pas. Voilà, donc je trouve cette chanson vachement rigolote. Et puis ça rentrait aussi dans le film La mariée était en noir, avec problème de relation, tout ça, de couple. Bon, La mariée était en noir, elle n'a pas de problème de relation puisqu'il est mort, mais je trouvais ça assez bien. Et puis c'est rentré aussi dans mon état d'esprit du moment.
Okay.
Oui?
Une question, en fait.
Vous en prie.
C'est quoi le rapport dans le... Elle s'inscrit comment dans le film?
Comment?
La chanson, elle s'inscrit comment dans le film?
Elle n'est pas dans le film.
D'accord.
Mais... comprends pas la question.
T'as découvert l'existence de Jeanne Moreau, donc t'as découvert
Voilà,
le
donc
fait qu'elle
après j'ai
chantait.
cherché autre chose, et puis bon, tu trouves des vieux disques chez tes parents, tout ça. Donc elle avait sorti deux albums. C'était écrit par un mec qui s'appelle Basiak. Et donc, Assiac, si tu le dis. Voilà. Et puis j'avais d'autres. Il y a un petit truc rigolo à raconter aussi, c'est que donc ma mère, elle m'emmenait voir des films comme ça qu'elle avait vus quand elle était plus jeune. Et puis un jour, je lui dis, oui, dis donc, oh là là, il y a un film qui sort là, et on va changer un peu, hein, ça va nous changer, parce que c'était bien sympa, les films en noir et blanc, tout ça, mais... Et donc elle me dit, oh oui, bah choisis, bon. Et puis alors, nouvelle partie, voir les saisons du plaisir de Mookie. Donc je sais pas trop quel âge j'avais, mais 14-15 ans. Et là, je me rappelle un petit peu sa gêne et un certain plaisir de l'avoir gêné. Parce que je sais pas si vous voyez ce que c'est les saisons du plaisir, mais quand vous allez au cinéma avec votre mère et que vous voyez des trucs pas possibles au cinéma pendant 2 heures... C'était très drôle.
Ça se passe dans un château et tout le monde baise avec tout le monde.
C'est un peu ça. Tout le monde baise avec tout le monde. Alors il y a par exemple, il y a un type qui se tape une chèvre. Alors ça pourrait faire un lien avec l'émission d'avant, là, le Karim qui voit des chèvres gonflables. Bon. Je pense que c'est ça qui m'a fait penser aussi à ce film. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Jacqueline Maillan qui a une soixantaine d'années et puis qui fait du Minitel Rose. Hein, c'était le début du Minitel Rose. Donc tout ça, c'est assez drôle. Je conseille aux gens. Il est repassé la télé il n'y a pas longtemps et ça m'a bien fait rigoler. C'est un peu nul. Hein,
pas, ça de m'a promo, fait... pas de promo.
Pas de promo. D'accord, d'accord. Et c'est rigolo aussi parce que il y avait deux acteurs très vieux. Il y avait Charles Vanel et Denise Gray. Et donc Mookie les avait engagés comme ça sans trop leur raconter l'histoire du film. Et quand ils avaient vu le film, ils avaient été très choqués. Hein, ils approchaient les 100 ans hein, sans doute. À ce moment-là, ils avaient été très choqués de voir ce qu'ils avaient fait autour d'eux. Quoi. Parce que eux, on se rend pas dans leur rôle à eux, il n'y a pas vraiment de sexualité, etc. Mais tous les autres, oui. Tous les autres personnages. Et donc ils n'étaient pas au courant en tant qu'acteurs. Et quand ils ont vu le film, ils ont été très choqués, voilà, comme ma mère. Alors Napoléon. C'est une femme qui a un mec, elle le trouve charmant, etc. Bon. Et puis, il la trompe. Donc, elle décide de lui faire sa fête, enfin, de le tuer, quoi. Et voilà, quoi, c'est ça, c'est l'histoire du truc. Et moi, je trouvais ça assez rigolo, parce que je te dis, ça rentre dans le cadre de Jeanne Moreau, qui est un peu... perverse dans tous ces films de cette période-là.
Ouais, mais alors le fait que Jeanne Moreau perverse, ça t'est plu, pourquoi?
Parce que j'aime bien les femmes perverses, sans doute.
Non, mais possible, mais...
Ouais, bah, quand tu vois les films que je t'ai cités, enfin, je les ai pas tous cités, mais quand tu vois Buñuel avec Belle de Jour, elle est pas clean, Catherine, hein, bon. Dans Tristana, elle est pas clean non plus. Je dois bien aimer ça,
d'accord, quelque part. Et c'est un peu une découverte, quoi.
À l'époque, oui. Maintenant, je sais que c'est vrai.
J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon. T'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie. Nous ne sommes pas beaux, beaux, beaux. Mais contre toi, moi, je grille. Tu me fous le feu à la peau. T'as peut-être pas des bras d'athlète. T'as peut-être pas le torse velu. Mais j'adore tes mirettes qui se brouillent quand tu me dis que tu m'as dans Napoléon. Tu m'as dans Napoléon. Tu m'as dans Napoléon. Léon, 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 Léon. Mais voilà qu'un soir au cinérama. Au ciné en longueur, sur l'écran exhibiteur, une femme, un serpent, une chatte mollement étendue plus que nue t'a ému. Cette femme plus que nature, en couleur plus que pure, cette roulure sans pelure qui roulait en voiture, cette glu, ce serpent, cette chatte mollement s'est glissée, s'est lavée au creux de ta peau, Léon. Tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, tu l'as dans la peau, Léon, 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 Léon. Depuis tu prends des airs rêveurs, Léon. Pourquoi mon Léon? T'es plus mon Léon. Pour une étoile dont la peau n'est qu'un rayon, un halo, nébuleuse, vapeur, sans chaleur. J'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, j'aurais ta peau, Léon, 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 Léon. Ce fut voluptueusement, sans cri, ni geste, ni adieu. Tu basculas dans le néant, tu Tu n'auras pas vécu bien vieux, c'était qu'une petite écorchure sur la peau de ta figure que tu te fis au rasoir. Je l'avais mouillé de curare. J'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, j'ai eu Napoléon, Léon, 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 Léon.
Ouais, salut Anne.
Salut Jean-Baptiste.
Salut Anne.
Et Jean-Philippe. À quoi ? Je commence à dire quand c'était ouais. Cette première lecture
ouais.
Ce truc.
Ce truc.
J'avais 14 ans. J'ai bien bossé la réponse. Voilà, c'est un livre que j'ai lu à 14 ans. Parce que j'aime bien cette collection. Et ça s'appelle La Maison Vide. Et ça commence comme une prière. Alors c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle David, qui a 15 ans. Et en fait, ça fait longtemps qu'il habite plus chez ses parents, qu'ils l'ont mis chez sa tante, je crois. Et il y a son père et sa mère qui se sont fait enlever par les nazis. Et lui, il n'a pas été emmené par les nazis puisqu'il n'était pas là. Et je crois qu'il a été placé dans une maison avec plein d'enfants qu'on cache. Voilà.
Tu te souviens comment tu l'as découvert ce livre ? Pourquoi il est arrivé jusqu'à tes yeux ?
Ouais, parce que j'avais lu un livre qui s'appelle Dieu, tu es là, c'est moi, Margaret. Et c'était la même collection. Et du coup, c'est page blanche, Gallimard.
Dieu, tu es là, c'est une question ?
Dieu, tu es là, c'est moi, Margaret.
Genre toc-toc, quoi.
Ouais. Ou au téléphone. Ouais, plutôt au toc-toc. Ça s'appelle La Maison Vide. Mais c'est une bonne raison, hein.
Dieu était pas là.
La Maison Vide derrière.
Dieu, tu es là, La Maison Vide.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a des périodes comme ça où on se dit pas grand-chose. Et moi, je crois que j'étais dans une période où je formulais pas grand-chose. J'étais juste là et... Et voilà, je lisais les livres qu'on m'offrait. Bien consciencieusement.
Et qui t'offrait des livres ?
Ma mère. Ouais.
Comme rapporter un os.
Ouais. Je comprends pas trop l'image, mais je peux aboyer si c'est pour vous.
Tu le disais quand t'avais fini le livre.
Ah ouais, voilà, ouais. Mais c'est vraiment ça, ouais, ouais, ouais. Et je disais que j'avais vraiment trouvé ça super, sauf que là, je pense que ma mère connaissait pas le propos du livre. Et j'ai trouvé ça... Parce qu'évidemment, j'avais lu Anne Frank avant. Et là, c'est un peu plus rock'n'roll que Anne Frank. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je faisais de la gym, on m'offrait des Juste au corps, j'ai arrêté la gym, et là, on m'offrait des livres. Que toujours j'étais la gentille petite bonne gymnaste ou bonne élève. Et donc là, on m'offrait toujours plein de livres, de la même façon qu'on m'offrait toujours plein de Juste au corps. Non mais c'est vrai, et du coup, j'avais plein de livres qu'il fallait que je lise, et je les lisais, mais... Et c'était souvent, parce que là, je dis que j'avais 14 ans, mais c'est très possible que j'avais 16 ans, et c'est vraiment un livre pour enfants, quand même. Ouais, j'aimais beaucoup les histoires de petits garçons. Et j'aimais beaucoup les histoires de... Parce que dans cette collection, et c'est pour ça que je trouvais ça, j'avais l'impression d'avancer un peu, c'est que, par exemple, Dieu, tu es là, c'est moi, Margaret. Voilà, elle rêve d'avoir un soutien-gorge avec des ours pandas dessus. Et moi aussi, je pense qu'à ce moment-là, je rêvais de ça. C'est-à-dire que je crois que je préférais que ma mère, elle m'offre des soutiens-gorge avec des ours pandas plutôt que des livres.
Et c'est quoi l'intérêt d'avoir des ours pandas sur un soutien-gorge ?
Bah, il n'y a aucun intérêt, mais c'est un truc que j'avais lu, et comme quoi la fille qui recevait un soutien-gorge avec des ours pandas, la mère acceptait tout à coup que ce soit plus une petite fille. Mais voilà, moi on m'offrait des livres.
Paradoxalement. On plombe un peu quand même.
Ouais, mais en même temps, en taille S, des soutiens-gorge, tu trouves rarement du Calvin Klein, quoi. Enfin, tu vois, des petits trucs pour petites filles, parce que c'est pas tant d'avoir des seins qu'avoir un soutien-gorge. Non, mais c'est vrai. Faut le savoir.
Ouais.
Voilà. Mais là, c'est un petit garçon qui racontait, je préférais. C'est-à-dire que, ouais, les soutiens-gorge, j'en avais plus rien à foutre. Je lisais dans une petite chambre où j'étais toute seule. Parce que vraiment, c'est pour ça que je me dis quand même que. Non, je devais être. En fait, à partir de la quatrième, j'ai eu une chambre toute seule. Avant, on était tous les quatre, enfin, il y avait ma sœur, elle avait sa chambre toute seule, la grande, mais on était tous les quatre avec deux lits, deux fois deux lits superposés. Et là, on a construit en haut, et du coup, j'avais une mini chambre sous les toits, mais toute petite. Et je lisais dans mon lit. Et je me souviens, j'avais une photo de Sainte Thérèse de Lisieux au-dessus de mon lit.
Pourquoi Sainte Thérèse de Lisieux ?
Mais non, parce que c'était une photo que ma mère m'avait donnée et que j'avais consciencieusement accrochée au-dessus de mon lit. Ouais, je terminais mes devoirs et puis je me couchais et puis je me disais qu'en cachette, j'apprenais des trucs qu'on ne m'apprendrait pas. Et là, je faisais la nique à tout le monde qui s'agitait en bas. Donc c'était pas mal. Enfin non, avant de me coucher, d'abord je jouais au Playmobil et après j'allais lire.
Ça, c'était pas à 16 ans.
Si, j'ai arrêté de jouer au Playmobil en seconde quand Raphaël est rentré en 6e et qu'elle m'a dit qu'elle voulait plus jouer au Playmobil. Donc, Martin, il avait arrêté un peu avant parce qu'il avait rencontré son meilleur ami qui s'appelle Julien et avec qui il avait décidé de faire du rock'n'roll et qui s'était mis à Nietzsche. Donc voilà, moi je galopais derrière et je crois que je lisais aussi pour... Pour avoir l'air intelligent par rapport à Martin.
Et tu les refilais les bouquins à l'un ou à l'autre ?
Non, pas à ce moment-là. Non, et puis voilà, enfin, je sais pas, comme c'était un cadeau de ma mère, c'était vraiment pour moi, il fallait que j'honore ce truc-là jusqu'au bout, quoi. Qu'il n'était pas question de le prêter.
Et ta mère, elle offrait des juste corps et des bouquins aux autres ?
Non. Parce que je suis sa préférée. Ils le savent, hein, ils peuvent écouter l'émission, c'est pas un problème. Alors là, il est dans une maison. Il est chez Madame Biancotti. Et voilà, il est dans cette maison où on le cache. C'est une maison religieuse puisqu'il y a un père supérieur et tout ça. Et voilà, il doit faire une prière tous les matins avant d'entrer en classe. Ouais, c'est en France. 1944.
Il a quel âge ?
15 ans. C'est un petit garçon. C'est parti. Merci Seigneur de m'avoir enlevé mes parents. Merci Seigneur de devoir me cacher pour vivre. Merci Seigneur de ne recevoir de l'aide de personne. Merci Seigneur du trou à rat où vous m'avez fourré, où les premiers temps, à l'appel de mon faux nom, je cherchais dans la classe l'imbécile qui ne savait pas qui il était. Merci Seigneur de m'avoir fait connaître l'internat, la prison religieuse où ne filtraient du dehors que les nouvelles du dimanche soir, quand rentraient les vénards qui avaient un correspondant en ville. Voilà, et ça j'ai trouvé... Je trouvais ça génial, parce que c'est pas un vrai merci, hein, c'est pas... Non mais c'est vrai. C'est ironique parce que... Je peux lire un autre truc ?
Non.
Je suis tout seul dans cette immense maison, presque un château. Seul le silence me répond. Oui, nous étions juifs. Quel mal à ça, juif, même pas religieux. Presque pas juif du tout. Jamais de ma vie, je n'ai mis les pieds dans une synagogue. Papa et maman s'étaient mariés à la mairie de Montreuil. Dieu, si tu existes, je ne crois pas en toi, je te hais, je te maudis, je te méprise, je te crache à la gueule, j'en ai marre. Et ça, je trouvais juste ça génial, quoi. Et qu'en plus, ma mère, elle savait pas, hein. Je lui ai jamais dit. Mais voilà, pour moi, c'était le début du rock'n'roll, ça. 1944.
Any younger, I can't ask you to be kind.
Voilà, alors j'ai un autre texte. Ça s'appelle « Histoire d'une âme » de Sainte-Thérèse de Lisieux. Je viens que tu me roules une roulée.
Vas-y, répète.
Ça s'appelle « Histoire d'une âme » de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et ça, c'est aussi un livre que m'a offert ma mère. Mais alors si on dit que j'avais 15 ans quand elle m'a offert « La maison vide », qu'elle n'avait pas lu, j'avais 28 ans quand elle m'a offert « Histoire d'une âme » qu'elle a lu de Sainte-Thérèse de Lisieux.
Qu'elle a lu quand ?
Qu'elle arrête pas de lire, je crois.
Ah, tout s'explique. Sainte-Thérèse de Lisieux.
Ouais. Bah ouais, elle est fan. Hein. Et moi, elle m'a fait lire ça.
C'est un truc de mystique, là ?
Ouais, mais carrément. C'est tout ce que je déteste. Mais vraiment. Enfin, c'est authentique, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux qui a écrit... je crois quand elle est rentrée au Carmel, on lui a dit que ce serait bien qu'elle écrive un peu ses mémoires. Parce que... Puis quand on visite la maison de Sainte-Thérèse de Lisieux...
À Lisieux.
Et bon, ça pour le coup, je l'ai lu ici à Paris, chez moi.
Ah, tu l'as offert à 28 ouais. Et tu... Ah d'accord. Mais elle y croit encore.
Ouais.
C'est même plus une question d'y croire, parce qu'elle doit aimer l'histoire, le livre, etc.
Non, mais il croit encore que Anne peut s'intéresser.
Non, mais c'est-à-dire que...
Elle n'est pas au courant de ton truc rock'n'roll, de l'invention du rock'n'roll en 44.
Si, quand même. Aujourd'hui, je pense qu'elle est un peu au courant. Mais qu'elle croit que j'ai un côté carmélite qui s'ignore, alors que moi, je suis sûre que non. C'est l'histoire d'une petite fille vraiment gâtée, qui fait beaucoup de caprices et tout ça. Enfin, on appelle caprice l'épilepsie. Parce qu'elle est épileptique, mais je crois que ça compte beaucoup sur... Et en même temps, enfin, je juge pas du tout son parcours et tout ça, mais je crois que c'est quand même assez proche de l'hystérie. Et voilà, enfin, c'est-à-dire que c'est tout ce que je déteste, mais en même temps, là, je suis en train d'en parler et je veux pas lui faire de la peine à Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc... Et pas à ma mère non plus, mais... Et puis sa mère est morte... Et elle était vraiment hyper amoureuse de son père, mais elle lui faisait beaucoup de colère. Et c'était vraiment... C'est la dernière. Je crois qu'elles sont 6. Il y a 5 sœurs, ou je sais même pas. En tout cas, elles sont toutes rentrées au Carmel. Et elle est rentrée plus tôt que les autres, parce qu'elle avait vraiment une vocation. Elle est morte hyper jeune. Je crois qu'elle avait 22 ans. Ouais, non, mais elle écrit des belles choses, mais elle écrit aussi des trucs... En fait, ma mère me l'a donnée quand j'étais en plein chagrin d'amour et vraiment j'allais pas bien, et elle m'a envoyé ce livre là pour me faire du bien pour le coup, parce qu'elle est pas mais juste j'ai détesté lire ça, quoi.
C'est son exemplaire?
Non, elle l'a commandé, elle me l'a envoyé. Et en même temps, quand je lui ai dit mais que c'était impossible pour moi de lire ça, et que vraiment elle m'a dit mais je comprends, mais arrête tout de suite de le lire, et voilà, elle m'a pas dit mais non, c'est hyper beau, pas du tout.
Et t'as une idée de pourquoi c'est son livre de chemin ?
Bah déjà, ma mère, physiquement, elle ressemble à fond à Sainte-Thérèse de Lisieux, mais c'est assez hallucinant, mais vraiment. Enfin, la photo que j'avais au-dessus de mon lit, c'était... Enfin, c'est assez drôle, comme... Mais on est tous d'accord, hein, pour dire ça.
Bah, ça, c'est peut-être à force de s'identifier.
Mais je suis pas sûre qu'elle s'identifie, mais... Mais voilà, évidemment, c'est sur la souffrance et tout ça, sauf que Sainte-Thérèse, c'est un truc qu'elle elle en redemande toujours et toujours. Et moi, justement, je crois que j'étais à un moment de ma vie où je me disais bien que ça servait à rien trop souffrir. Parce qu'elle croit en Dieu, parce que elle est dans le sacrifice et tout ça. Ouais, elle m'a aussi offert un livre d'Edith Stein sur Sainte-Thérèse d'Avila, donc j'ai jamais lu. Ouais, si, on a d'autres, mais je sais pas parce que je lis pas.
Elle aurait voulu être bonne sœur ?
Ouais, elle m'a dit ça assez récemment, ouais. Mais en même temps, non, enfin, elle a eu plein d'enfants et... Mais j'en sais rien, enfin... On s'en fout en même temps. Bah, elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Mais elle prie quand même tous les matins, tous les soirs. Enfin, surtout tous les matins, peut-être pas tous les soirs. Et petit, on faisait la prière avant de manger et tout ça, mais...
Elle n'est pas forcément papiste.
Ah non, mais même pas du tout. Mais pas du tout. Enfin, c'est une femme super intelligente, ma mère, mais vraiment. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais vraiment, enfin... Et puis elle lit pas que des trucs religieux, hein. Alors c'est Thérèse qui parle. Une autre fois, j'étais au lavage devant une sœur qui me lançait de l'eau sale à la figure à chaque fois qu'elle soulevait les mouchoirs sur son banc. Mon premier mouvement fut de me reculer en m'essuyant la figure afin de montrer à la sœur qui m'aspergeait qu'elle me rendrait service en se tenant tranquille. Mais aussitôt, je pensais que j'étais bien sotte de refuser des trésors qui m'étaient donnés si généreusement et je me gardais bien de faire paraître mon combat. Je fis alors tous mes efforts pour désirer de recevoir beaucoup d'eau sale, de sorte qu'à la fin, j'avais vraiment pris goût à ce nouveau genre d'aspersion et je me promis de revenir une autre fois à cette heureuse place où l'on recevait tant de trésors. Voilà. Et ça, ça m'énerve. En même temps, je trouve ça assez drôle.
Et il y a un moment où t'es quelqu'un dans cette scène ?
Ben, où je suis surtout pas celle-là, quoi.
Ouais, pas du tout, du tout.
Ben si, je l'ai été, mais elle, c'est vraiment un choix, c'est-à-dire que moi, je l'ai été parce que j'ai pas osé dire non, mais que c'était plus être la gentille petite Anne, mais que c'était plus du renoncement que elle, c'est vraiment... Pour elle, c'est la vie, quoi. Moi, c'est juste... Mais parce que peut-être, ouais, moi j'ai été celle-là pour faire plaisir aux autres à effectivement foutre la tête dans le seau et en avoir jusqu'au cou, quoi. Mais elle, elle le fait vraiment pour elle et pour Dieu. Enfin, c'est pour ça que c'est autre chose, quoi. Mais évidemment, enfin voilà, c'est juste de l'hystérie, quoi. C'est pas grave, hein. Je n'en veux pas.
Okay.
Mais à Thérèse. Mais voilà, c'est juste que je trouve qu'il faut pas lire ça quand t'as pas compris. Enfin, je sais pas. Moi, c'est genre de. Enfin, je crois que pour le coup, vraiment, ça nous dépasse et que c'est sans doute, tu vois, un parcours intérieur et que. Mais vraiment, c'est pas ma môme. Je lui donnerais pas à lire ça. Je lui dirais que ça existe, mais je lui offrirais pas, quoi. Non, mais c'est vrai. Elle pourra le gauler dans la bibliothèque de sa grand-mère, mais... Moi, je l'aurais... Enfin, si, je l'ai dans ma bibliothèque, quand même. C'est pour ça, il n'y a aucune censure. La preuve, je le lis. Non, mais c'est en aucun cas de la haine. Et évidemment que t'es... Enfin, tu vois, quand t'as eu une éducation religieuse, quand t'as toujours essayé de faire plaisir aux autres, tu peux pas être indifférent par rapport à un texte comme ça.
Mais c'est au passé, aujourd'hui, c'est... Non, je fous plus la tête sous l'eau, quoi.
Ah ouais, mais alors c'est exactement ça, c'est... y en a marre, quoi. C'est... Ça fight maintenant, tu vois, on m'écrasera plus. Mais je pense que... Mais évidemment, à 9 ans, mais... ouais...
T'aurais démarré au quart de tour.
Mais carrément, et j'aurais fait la même chose, et... Mais c'est évident. Non, mais sans le lire, je faisais la même chose à 9 ans, sans l'avoir lu. Bah ouais, et moi, ce truc-là, je le comprends hyper bien, quoi. Parce que, pour le coup, je crois que... Enfin, j'ai vraiment fait l'expérience de la souffrance physique. Mais vraiment. Et...
Volontaire.
Pas volontaire, mais... Enfin...
Genre la danse
ou... Ouais, la gymnastique...
Carrément. Non, mais je veux dire, se faire mal à son corps sportif... C'est pas un truc mystique, c'est un truc de dingue, mais c'est pas un truc mystique.
Bah... Ouais, sauf que moi, je suis directement passée de la communauté à la gymnastique, et que pour moi, c'était complètement lié, quoi.
La communauté.
La communauté religieuse dans laquelle j'étais quand j'étais petite. Mais il y a un truc qui est hyper drôle, en fait, par rapport à Sainte-Thérèse de Lisieux, et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi ce truc-là, c'est qu'en fait, et si elle a de l'importance pour moi, c'est qu'en fait, justement, dans cette communauté, j'ai lu la bande dessinée de la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux, et qu'à un moment, il y a une petite image avec un texte en dessous, et on voit Sainte-Thérèse qui marche dans la rue, et des garçons qui se retournent, et c'est écrit que Déjà, ses sœurs savaient que Sainte Thérèse était une sainte parce qu'elle ne se retournait pas sur les garçons qui se retournaient sur elle et qu'elle n'en avait rien à foutre de tous ces garçons qui se retournaient sur son passage parce qu'elle était très jolie et tout ça. Et que moi, quand j'ai lu ça, là, je me suis vraiment dit que je ne voulais pas être une sainte. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi, je crois que je rêvais qu'on se retourne sur mon passage et que je trouvais ça incroyable qu'on puisse s'en foutre. Et que moi, j'avais pas envie de me foutre de ça, j'avais pas envie de pas me retourner dans la rue si un garçon se retournait sur mon passage.
Je répète. Enfin, en gros, c'est le cul qui fait quitter Dieu, quoi.
Mais carrément. Moi, quand en CE2, on m'a demandé ce que je voulais faire comme métier, j'ai dit prostituée. Et que c'était vrai. Parce que pour moi, être prostituée, c'était vraiment l'endroit où on avait le droit de plaire. Et que dans la communauté, alors là, il y avait...
Là où ça tombe mal, où ça tombe bien, mais où ça devient compliqué, c'est que, justement, dans le mysticisme, il y a une véritable ouverture à l'orgasme.
Ouais, mais moi, c'est un truc... Ouais, mais je trouve que... Enfin, tu vois, il y a un moment, ça va bien de souffrir, quoi. Et je pense que tu peux aussi avoir un orgasme en prenant ton pied et voilà, quoi.
Ça n'empêche pas.
Ouais, mais bon, tu vois, le point de départ, c'est toujours la douleur, quand même, quoi. Et que c'est la douleur qui est le moteur, et c'est la douleur à l'arrivée, au point de départ, au milieu, et que je trouve que c'est un truc de fou, et qu'il faut sortir de ce truc-là, et qu'en plus, c'est hyper difficile de sortir de ce truc-là quand t'as été là-dedans. C'est ce que je disais, 1880. Et c'est pas très vieux, hein.
Je peux vous le lire maintenant ?
Non, on va développer un peu quand même.
Qu'est-ce que la futurition infaillible, éternelle de l'acte qu'en ce moment j'hésite à faire ? Vous voulez que je la répète ?
Mais de toute façon, ouais, moi je me pose pas des questions, il n'y aura pas de questions, il n'y aura pas de dialogue.
Il peut y avoir un petit peu de dialogue. Un petit peu.
Vas-y, répète.
Eh bah, figure-toi qu'on peut faire peut-être un lien avec la chanson suivante. Parce que tu dis là que... Usé. Bah, je vais parler d'une autre chanson et puis d'une autre période. C'est une chanson qui s'appelle Joyeux Noël. Et je sais que tu connais. Joyeux Noël, c'est une chanson de Barbara. C'est pas forcément la chanson la plus connue de Barbara, hein, bien évidemment. C'est une chanson, alors je vous raconte en gros, c'est deux personnages, je me souviens plus trop de leur nom. Qui un soir de Noël, d'où le titre Joyeux Noël, se promène dans Paris et se promène dans Paris pour se rendre au réveillon. Donc l'homme va chez la femme et puis la femme attend l'homme. Enfin bon. Et en se promenant, chacun d'entre eux rencontre une autre personne sur un pont ou je sais plus où. Bon. Et au lieu de passer le réveillon avec la personne prévue. Ils partent avec leur nouvelle rencontre et ils ont une aventure.
Chacun de leur
côté. Non, je suis pas sûr que ce soit chacun en fait. Je crois que c'est un qu'un, mais je sais plus si l'homme ou la femme. Ils ont une aventure, ça dure une semaine et puis au bout d'une semaine, ils sont un petit peu déçus. Enfin, déçus, c'est pas le mot, mais ils sont un petit peu. Je sais pas trop quoi dire. Ils sont. Bah, ils regrettent leur ancien partenaire, donc ils décident de retourner avec leur ancien partenaire, qui l'accueille les bras ouverts. Et voilà, et ça c'est assez, je trouve que c'est bien, parce que c'est une chanson qui dit que l'infidélité, c'est pas super, mais que c'est pas si terrible que ça.
Le rapport avec la chanson d'avant ?
Non, c'est pas le rapport vraiment avec la chanson d'avant, mais avec ce que Jean-Baptiste m'avait dit, c'est-à-dire sur l'écouter en boucle, etc. Bah ça, je crois que c'est bien de se l'écouter en boucle parce que ça remet les choses en place. C'est pas vraiment un drame, quoi. Oui, alors après, j'ai choisi cette chanson parce que j'aime beaucoup Barbara et puis je voulais aussi vous raconter le concert que j'avais vu d'elle, le seul. Parce que, bon, après, elle est morte. Donc c'était des moustiques, non ?
Oui,
une bestiole. Et donc c'était un concert à Mogador, au théâtre Mogador à Paris, où je m'étais rendu comme ça. Bon, j'étais assez fan, mais sans plus, quoi. C'était un peu pour la culture, quoi. Et donc me voilà parti à ce concert. Et là, j'étais vraiment surpris. J'en ai revu des concerts après, pas d'elle, mais d'autres. Alors, des concerts de rock, etc. Mais il n'y a jamais eu autant d'ambiance. Je sais pas si les auditeurs ont assisté à un concert de cette femme, mais...
T'avais quel âge ?
Oh, je sais plus.
Non, mais...
Oh, moins de 20 ans. Et donc, c'était... Alors, bon, c'est assez classique de dire ça, que c'était une grande messe, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que... À partir du moment où les gens étaient dans la salle, il commençait à y avoir une ambiance assez religieuse. Enfin, religieuse, nerveuse, hein, parce que c'était pas les cantiques, mais je veux dire, les gens étaient très. Attendaient l'arrivée du libérateur, enfin bon. Et donc il y avait beaucoup d'ambiance, les gens applaudissaient, chantaient déjà les chansons, hein, et pas une très connue, mais beaucoup. À ce moment-là, elle arrive, c'était le délire, elle s'est fait applaudir pendant au moins 20 minutes avant de commencer à chanter. Et puis, entre chaque chanson, on avait à peu près 10 minutes d'applaudissements debout, donc le concert a duré très très longtemps. Et c'était vraiment une ambiance particulière, il y avait des jeunes, des vieux, les gens pleuraient, il y avait une vraie communauté, un vrai lien entre les gens. Et voilà, donc je voulais parler de ça aussi parce que c'était un bon souvenir et je crois qu'il y a peu d'artistes français qui arrivent à faire ça aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en connais pas.
C'est une femme perverse, Barbara ?
Je sais pas, moi, je la connais pas. Hein.
Mais dans ses chansons ?
Pas spécialement, non.
C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Alma. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël, fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents. À pied, il longeait la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant Noël. C'était 22h à peine ce vendredi-là. C'était veille de Noël et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre près du pont de l'Alma. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas. Fêter Noël, fêter Noël. Bottes noires souveraines et gantées de blanc, elle allait pour dire je t'aime, marchant à pas lents. À pied elle longeait la Seine tout en chantonnant. Puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Or voilà que sur le pont, ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes au camp, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc, et frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, c'est juste à deux pas. Ils allèrent chez Eugène pour y fêter ça. Sous le sapin de lumière, quand il l'embrassa, heureuse elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, ils s'aimèrent près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre un peu tard, ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Alma. Qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là? Eux qu'avaient eu un Noël comme on n'en fait pas. Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi. Après Noël, joyeux Noël.
Alors, c'est le mercredi à 8h du matin, c'est sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. le mercredi, j'ai dit ça, le mercredi, une fois tous les 15 jours.
Vas-y, répète.
Alors, je vais vous lire un autre truc.
Bah, tu nous en parles un peu.
Hein. Ah ouais. C'est John Fante. C'est une nouvelle qui s'appelle 1933 fut une mauvaise année. Et c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Dominique Molise, qui a 17 ans. Et vous faites de la censure, vous aussi. Hein. Qui a 17 ans et qui rêve de devenir joueur professionnel de baseball. Bon, lui, il veut jouer avec les Cubs. Son meilleur pote, il veut jouer avec les Yankees. Mais là, ils sont vraiment dans un village paumé dans le Colorado, qui s'appelle Roper. Et voilà, et il vient d'une famille... immigrée italienne, là. Son père est poseur de briques. Sa mère, elle bosse pas. Il a 4 frères et sœurs. Et il veut pas ressembler à son père. Moi, encore une fois, c'est un garçon qui parle et je trouve que c'est vachement bien. Et John Fante, je sais pas, j'ai découvert ça il y a... Ouais, il y a pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans. 4 ans, 5 ans, je sais plus. Et voilà, et j'ai tout lu et je trouve que c'est... J'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper vivant. Ouais, je me souviens que c'était mon frère qui m'avait donné... parce que voilà, on est rentré dans une période où on se prête énormément les livres qu'on lit. Je suis plus grande que Martin. Je suis plus grande que mon frère. Et il m'avait prêté Plein de vie. Non, il avait lu L'Orgie. Il m'avait dit que c'était génial et c'est vrai que c'est vachement bien. Mais moi, j'ai préféré 1933 fut une mauvaise année qui est dans... Dans le même livre, en fait, il y a deux nouvelles. Il y a L'Orgie et 1933, fut une mauvaise année. Et alors, je l'ai lu, ouais, je sais plus. En tout cas, je l'ai re-relu et c'est un texte que je lis assez souvent. Ouais, parce que vraiment, L'Orgie, c'est vraiment le père de John Fante. Enfin, là, peut-être qu'il a un autre prénom, je suis sûre, même il a un autre prénom. C'est vraiment le père qui participe à des orgies. Sexuel. Et que c'est super drôle parce que. Et voilà, peut-être Martin, il a vachement aimé ce truc-là. Moi, ce que j'aime vachement, c'est ce garçon qui veut surtout pas ressembler à son père et qui rêve de devenir joueur, mais même pas joueur professionnel, il rêve de devenir le plus grand baseballeur du monde.
Vas-y, arrête.
Ouais, il y a de la baise aussi. Hein. Le plus grand baseballeur du monde. Enfin, joueur de baseball du monde, voilà. Je veux dire, dans L'Orgie, c'est toujours garçon qui parle et voilà, il doit avoir 15 ans. C'est toujours l'enfant de son père, quoi. C'est jamais un garçon autonome, quoi. Tu vois, c'est toujours un môme. Donc du coup, c'est hyper drôle. Non mais c'est vrai, franchement. Martin, il me lit ça, il me donne ça à lire et je le rappelle et je lui dis mais carrément, c'est vraiment génial. Et il me dit ah ouais, t'as vraiment trouvé ça super et je lui dis mais ouais. Et puis voilà, on est d'accord et on s'est compris.
Ah non mais j'en doute pas, ça en fâche pas.
Ouais mais c'est vrai que par exemple, moi Martin, je lui ai offert... En fait, je crois que c'est moi qui lui ai offert L'Orgie. Je sais plus. Mais c'est rien moins qu'un truc qui m'est plu, et que j'ai envie de lui faire lire. Et
mon chien stupide.
Bah, mon chien stupide, je crois qu'il me l'a offert. Je suis quand même toujours super d'accord avec Martin. Et là, ouais, j'ai préféré 1933, fut une mauvaise année. Ouais, je pense pas qu'il y ait un truc rebelle là-dedans, quoi. C'est que vraiment, j'ai préféré le deuxième texte.
Non, mais d'accord, c'était une question.
Et voilà, enfin, je trouve juste ça génial. Et que ça me porte quand je dis un truc comme ça, parce que ça me donne un petit peu envie de vivre.
Pourquoi ce texte de John Fante est plein de vie, pourquoi c'est porteur, enfin, quoi ?
Mais parce que c'est vraiment l'histoire de ce garçon qui est dans cette famille avec tous ses frères et sœurs, sa mère qui croit à fond en Dieu, son père qui bosse dans le bâtiment, et que lui, il a envie de sortir de ça, et pas forcément répéter l'histoire de ses générations, et il a sans doute envie de devenir, mais même quelqu'un d'autre, quoi. Et voilà, et moi, bah ouais, sans doute que j'ai envie de devenir...
Ça, dans ce bouquin, t'es à mort, le petit garçon.
Ah mais, ouais, et même... Ouais, mais ça, pour le coup, je m'en fous. Mais ouais, peut-être ça me parle parce que... Mais... Et qu'en même temps, je suis sans doute le petit garçon, mais je pense qu'il y a plein de petits garçons comme ça aussi.
Ton père, il bosse dans le bâtiment.
Ouais, mon père, il bosse dans le bâtiment. Mais lui, il se fait plein de thunes. C'est pas du tout... je préfère de loin le père de Dominique Molise. Mais mon père aussi, il allait forniquer ailleurs, et lui aussi. Mais bon, c'est des pères, hein. Ça... C'est pas des joueurs de baseball. Non, mais c'est juste à partir du moment où ça me raconte un truc. Enfin, tu vois, là, c'est quand même un petit garçon. Hein. Moi, je suis pas un petit garçon. J'ai pas envie de devenir joueur de baseball. J'ai hâte d'aller aux États-Unis pour voir un match des Yankees, ça, c'est sûr. Mais. Non, et qu'en plus, ouais, cette idée. Enfin, de toute façon, cette idée d'un garçon qui a envie de devenir joueur professionnel d'un sport, je trouve ça toujours assez enthousiasmant, quoi. Et super vivant, et. Et je trouve que c'est essentiel de rêver et que, voilà, il rêve, il mesure un mètre, je sais plus combien, il est super petit pour être professionnel de baseball. C'est, voilà, c'est le conflit de génération et c'est vraiment, voilà, quelqu'un qui a envie de partir. Mais c'est pas franchement... Moi, je suis parti, hein, ça va.
Il y a un côté truc de loser, non, un peu.
Ah, mais pas du tout.
Pas dans celui-là.
Ah non.
Pas,
dans plein de vies, ouais. Ouais, mais mon chien stupide, je trouve que c'est un peu... carrément, mon chien stupide, mais je trouve que mon chien stupide, c'est un peu à part, en fait, dans ce qu'il a écrit. Enfin, tu vois, dans L'Orgie, 1933, Bandini, c'est vraiment l'enfance, donc mon chien stupide, c'est un peu autre chose. Ouais, effectivement, c'est carrément... Ouais, mon chien stupide, je trouve que c'est vraiment à part.
Non, même dans Bandini, tout ça, toute cette période-là, Le gamin en question, c'est gloire et c'est que du fantasme.
Mais ouais, cool. Mais ouais, mais attends, mais qu'est-ce qui te fait... Mais je veux dire, c'est un moteur pour lui, n'empêche qu'il a envie et qu'il avance à sa façon. Et évidemment, il jette des coups de pied dans les poubelles, mais au moins il jette des coups de pied dans les poubelles parce qu'il n'a pas osé dire salut à la fille dont il est amoureuse. Mais au moins, il s'énerve, au moins il est en colère, quoi. Mais voilà.
C'est
des gens
loser.
Qui sont en colère. Non, losers, ils sont même plus en colère, les losers. Non, c'est vrai, quand t'es un loser, t'es plus en colère. Alors donc là, il est dans la cuisine. De toute façon, il y a trois pièces. Il y a la cuisine, la chambre de ses parents. Non, il y en a quatre, parce que grand-mère Bettina, elle doit quand même dormir quelque part. Et il y a la chambre où il dort tous ensemble avec les frères et sœurs. Et donc là, il est dans la cuisine. Et bah, pour le coup, il parle de son père, parce qu'il n'est pas rentré manger. Et il passe son temps à jouer au billard et tout ça. Parce qu'en plus, c'est l'hiver et son père, il bosse pas. Parce qu'un poseur de briques... Et comme il neige 8 mois sur 12, c'est pas facile. Donc, voilà, il va dans un bar où il y a des billards et où il y a beaucoup de femmes. Et donc, voilà, elle se fait du souci pour son mari, la mère de Dominique Molise. Or, c'est Dominique qui commence à parler avec sa mère. Il est comme ça, tu ne le changeras pas. Ça, c'est Dominique qui dit ça à sa mère. Il changera. Dieu interviendra un de ces jours, tu verras. Elle faisait allusion à ses prières, au milieu de perles de rosaire égrenées au fil de milliers de jours, sur ses genoux, dans sa chambre fermée à clé.
sur ses rotules de menu boss en témoignaient. Elle s'est approchée tranquillement derrière moi et j'ai senti ses doigts frais dans mes cheveux, puis ses mains qui caressaient mes oreilles en feuilles de chou. « Arrête !» j'ai dit en m'écartant. « Porte le bas et continue de prier !» elle m'a dit. Le remède des Potenze, alors Potenze, Potenze, c'est un village d'Italie, contre les oreilles décollées consistait à porter un bas de femme sur la tête pendant la nuit. Ce remède était parfaitement efficace tant qu'on portait le bas, mais dès qu'on l'enlevait, les oreilles reprenaient leur position initiale. « J'ai appris à me faire une raison pour mes oreilles, maman. S'il te plaît, tâche donc de m'imiter. » « Mais as-tu essayé la Sainte Vierge ? Essaie-la pendant un mois. Si elle peut faire marcher les infirmes, tu comprends que ça lui sera très facile. » « La ferme, j'ai crié, laisse-moi tranquille, laisse mes oreilles tranquilles. » Blessée, les yeux écarquillés, elle m'a regardée, puis elle s'est retournée sans un mot avant de rentrer lentement dans sa chambre, laissant derrière elle un sillage de soucis et de peines, comme un voile de mariée déchiré. Je regrettais de m'être mis en colère contre elle. Je me suis détestée. Mais l'idée de prier la Mère de Dieu pour qu'elle m'aplatisse les oreilles semblait de la folie pure, vu que son fils avait décidé de les décoller. La prière, à quoi servait-elle donc ? À quoi avait-elle avancé ma mère ? Mon père à côté d'elle, au lit, chaque nuit, écoutant le léger cliquetis de son rosaire, la trouvant à genoux, tremblant de froid. « Bon Dieu, que fais-tu agenouillée ? Pour l'amour du Christ, viens te coucher avant de mourir de froid. » Ses prières à elle, un claquement de fouet sur son cul à lui, lui rappelant son indignité, son épouse comme un enfant qui envoie des lettres au Père Noël. Renonçant à la vie entre les bras de Dieu, de Sainte Thérèse, de la Vierge Marie. Ouais, ma mère était une brave femme, une noble femme. Elle ne trichait jamais, ne mentait jamais, ne trompait jamais, ni ne disait une parole désagréable. Elle récurait les planchers et mettait à sécher d'énormes quantités de lessive, repassait tant et plus, cuisinait et cousait et balayait et souriait courageusement dans l'adversité, victime de Dieu, victime de mon père, victime de ses enfants. Elle allait et venait avec les stigmates du Christ sur ses mains et ses pieds, une couronne d'épines sur la tête. Sa souffrance était insupportable à voir, au point que j'aurais voulu l'entendre dire « Eh merde !» ou bien « Allez vous faire foutre !» ou « Encore des clous, je m'en bats l'œil !» Je désirais ardemment le jour de révolte où elle casserait un pichet de vin sur le crâne de mon père, frapperait Bettina à la bouche, fustigerait ses enfants avec une badine. Au lieu de quoi, elle vous punissait à coups de notre père et de « Je vous salue Marie », elle nous étranglait avec les perles de son rosaire. La prière, ouais, la prière, oh, toutes ces paroles dans le vide pour quémander de petits services comme une paire de chaussures neuves ou des miracles comme grandir de 15 cm pour que ma balle soit vraiment rapide. Des années de prière, et avec quel résultat ? J'avais même renoncé à me mesurer contre le mur de ma chambre. Quelle futilité ! Si Saint François d'Assise, l'un des princes de l'église, mesurait seulement 1m50, quelle chance avais-je d'atteindre 1m80 ? Zut, c'était une vraie perte de temps, un grincement de dents au milieu du désert.
On est quand même super thématique aujourd'hui, là.
Mais carrément, mais de toute façon, je m'en suis rendu compte et j'avais pas le temps de lutter contre ça. Donc j'ai pas lutté.
Non, mais moi je parle pas d'un dommage.
Ouais, mais ouais, mais carrément, et je vois qu'il y a Sainte Thérèse et...
Quel intérêt y aurait eu à lutter contre ça ?
Bah, juste que, effectivement, tu vois, j'ai envoyé un texto à Jean-Philippe tout à l'heure pour lui dire c'est à quelle heure l'émission... pour Radio Notre-Dame, et voilà, quoi. Parce que je me disais que c'était terrifiant, comme... Mais voilà, et sans le faire exprès, puis à des moments de ma vie différents, et c'est vraiment ces textes-là qui m'ont... Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup.
C'est vrai que nous, on va avoir des problèmes avec la direction FEP, quoi. Ça ne concerne pas, hein. Mais...
Voilà, moi, je trouve de toute façon que c'est hyper difficile de dire pourquoi... pourquoi tel texte t'a plu ou pas, et le contexte et tout ça, et que voilà, je trouvais que juste en lisant les trois là à la file, bah ça racontait ce qu'il y avait à raconter, quoi.
Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Alors, plainte, c'était une interprétation, ça.
Mais moi, justement, je trouve que c'est en aucun cas une plainte. C'est justement, c'est de la colère. Et la colère, c'est jamais une plainte.
Je t'ai pas repris sur ton parcours.
Non, c'est de la colère. Et à partir de là, je trouve juste, c'est...
C'est qui Dieu pour toi ?
Mais c'est parce que je trouvais juste que les textes, ils se répondaient un peu. Et que si on me taxait de carmélite qui s'ignore, je disais non. Mais non, mais pas du tout, c'est juste de la... C'est... Enfin, moi, mais je trouve ça mais hyper vivant, et je trouve qu'en rien, c'est de la colère, je trouve ça juste drôle. Enfin, je sais pas, moi, peut-être je l'ai lu trop vite, mais je trouve que c'est à mourir de rire.
Ouais, quand il y a des choses qui sont dites comme ça, je trouve ça juste... Voilà. De toute façon, j'avais dit à Jean-Philippe que je dirais... Moi, je trouve ça juste génial, et c'est tout. Et je trouve ça mais super vivant, et...
Et tes lectures, les lectures que tu proposes à tes amis, c'est avant ou après le premier rendez-vous, enfin...
Ouais. Ouais, mais tu m'as jamais vu dire, c'est juste génial.
Encore faut-il
se revoir.
Non. Encore faut-il persuader.
À qui qui lui a... J'allais dire qu'il lui a offert son corps, c'est pour ça. Non, je déconne. Mais
Ça s'offre un corps, comme un livre.
Allez.
Non, franchement.
Ouais, moi je dis, avant de coucher, je dis, tu verras, c'est juste génial. Donc, ouais, je dois avoir le même rapport.